Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui au studio, nous sommes avec Laureline Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Laureline Fontaine, vous êtes professeure, docteur?
Oui. Traditionnellement, donc docteur en droit, et je suis professeur de droit public à l'Université de la Sorbonne Nouvelle à Paris.
Et donc vous êtes ici pour nous annoncer votre prochain rendez-vous avec le public, consécutivement donc à cette conférence que vous aviez donnée le 26 octobre aux conférences de Luc à Luc-en-Diwa, et qui concernait justement l'homme et son droit dans la société contemporaine. C'est un retour de cette conférence qui sera proposée et qui permettra de débattre et d'échanger ses idées sur ce sujet.
Voilà, c'est, je crois, comme ça que Christian Le Corvic et moi-même avons conçu la chose. Après la conférence, il y a eu quelques demandes de débat qu'on ne pouvait pas assouvir dans l'immédiat. Donc, on a organisé ça avec le SCDD à Die pour que chacun puisse venir débattre sur ce sujet important de l'homme et son droit dans la société contemporaine. J'introduirai le débat par un petit rappel de ce que j'avais dit le 26 octobre dernier, et puis ensuite l'idée est que chacun puisse à la fois poser des questions et développer aussi ses idées sur le droit.
Pour donner une idée de la teneur de cette conférence, on peut inviter les auditeurs de RDIWA à se rendre sur la page internet de l'émission Interview et des conférences de Luc qui avait lieu donc le 26 octobre. Laureline, il y a d'autres sites aussi pour pouvoir suivre cette conférence?
Voilà, elle avait été enregistrée en vidéo, donc on peut la trouver sur YouTube en tapant Laureline Fontaine, l'homme et son droit dans la société contemporaine, ou se rendre sur mon site internet www.ledroitdelafontaine.fr. Et toujours en tapant l'homme et son droit dans la société contemporaine, on retrouvera et le texte d'ailleurs et la vidéo.
D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui interviennent aussi et qui sont visibles sur le site.
Alors, j'organise de manière assez régulière des séminaires en Sorbonne sur la question des représentations et des usages du droit. Et ce sont beaucoup de chercheurs qui ne sont pas juristes la plupart du temps, des économistes, des historiens, des philosophes, qui viennent parler un peu de la manière dont ils pensent user du droit, dont ils se le représentent. Et effectivement, je filme ces séances et je les mets ensuite à disposition sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube. Laureline Fontaine, voilà, tout simplement.
Alors, d'après ce que j'ai compris de la conférence qui avait été donnée, la notion d'idée du droit est assez récente dans la société humaine.
Disons que ce qui est récent, c'est une manière spécialisée d'y penser. Les règles existent depuis toujours. En revanche, les sociétés qui ont commencé à s'organiser pour créer des règles spécifiques de droit sont effectivement plutôt récentes dans l'histoire et assez localisées au départ. Je dirais que l'Occident surtout a spécialisé son droit très tôt. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'est répandu partout sur la planète. Mais le fait est que aujourd'hui, il me semble que si l'on a spécialisé la production du droit, on tend en revanche de moins en moins à la réfléchir. Et il devient assez délicat de saisir exactement la portée du droit dans l'espace social, parce que précisément, c'est devenu quelque chose à la fois de spécialisé, de centralisé et en même temps de très peu réfléchi. Et c'est un peu à partir de ça que j'ai commencé à élaborer une réflexion.
Et puis, la question qu'on peut se poser aussi, le droit est-il accessible à tous ?
Alors c'est intéressant que vous me posiez cette question parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré quelque chose pour un site internet qui s'appelle Le Village de la Justice et qui commence une série de podcasts sur les approches du droit. Et donc là, c'était sur la question de la proximité du droit. Et donc, j'ai enregistré le premier numéro. Et le problème de l'accessibilité du droit, à mon avis, c'est surtout le problème de, on va dire, se situe déjà au niveau de ce que ça veut dire le droit pour les gens et de ce que ça veut dire la connaissance du droit aussi. Parce que je suis toujours extrêmement frappée par l'idée que se font les gens de la connaissance du droit, comme si un peu il suffisait... mais c'est déjà beaucoup, mais comme s'il suffisait finalement, on va dire, de collecter un ensemble de règles techniques, d'énoncés qu'on retrouve dans des lois, dans des codes, etc., pour connaître le droit. Alors on imagine bien que, alors qu'il y a sans doute 10 000 pages au moins, au bas mot, constituées par les énoncés du droit, aucun professeur n'est en mesure de les connaître. Et ce n'est pas du tout là que ça se joue. Et quand bien même ça se jouerait à ce niveau, évidemment, ça ne suffirait pas à savoir à quoi sert le droit, à savoir quels sont les effets de ce droit, à savoir comment est-ce qu'il se fabrique. Donc, je dirais que avoir une connaissance spécialisée du droit, c'est surtout s'intéresser à toutes ces questions. Parce que les énoncés du droit, je dirais en plus, aujourd'hui en 2019, ils sont à notre disposition partout, ne serait-ce que sur Internet, il y a absolument tout le droit à disposition, au sens de ensemble de ces énoncés hein, qui sont censés constituer le droit. Donc évidemment... j'en connais moi, personnellement assez peu par cœur, c'est parce que c'est pas du tout mon travail, mais je peux en quelques instants trouver l'énoncé, mais surtout comprendre ce qu'il dit, comprendre la manière dont il s'insère dans un système plus général, éventuellement m'interroger sur ses effets et m'interroger aussi sur sa raison d'être. Donc c'est ça mon métier. Et l'accessibilité au droit, je pense, doit passer par une compréhension de ce que le droit, ça n'est pas un ensemble d'énoncés juridiques. Et c'est pour ça que c'est dans cette perspective au moins que je réfléchis au droit et que j'essaye de donner accès aux personnes à qui je parle d'avoir des clés d'approche du droit, en quelque sorte. Et de dire que, finalement, tout le monde est exactement logé à la même enseigne, c'est-à-dire que, qu'on soit professeur ou pas, l'accès matériel à l'énoncé juridique est extrêmement simple, mais qu'ensuite, c'est l'interprétation et c'est la signification de ces règles qui est un petit peu plus délicate, mais pas du tout impossible. Mais il faut déjà commencer par comprendre que c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre le droit, et c'est ce que j'essaye un petit peu de faire dans le cadre de ces conférences et de mon site internet.
Est-ce que le droit vit avec 100 ans, c'est-à-dire aujourd'hui notre époque contemporaine ?
C'est absolument certain. Dès lors que le droit est un mode privilégié d'organisation sociale qui n'utilise la force que comme support, c'est-à-dire dès lors que ça n'est pas la force qui prend le pas sur le droit ne peut être qu'un reflet ou qu'un accompagnement de son temps. Ce qui peut être parfois très troublant lorsque l'on s'aperçoit que le droit semble faire des choses qui nous paraissent ou décalées ou qui nous paraissent peut-être à contre-courant de ce que tout le monde voudrait ou semblerait vouloir. En réalité, lorsqu'on étudie les choses de près, on peut s'apercevoir que la plupart des membres du groupe social sont pour une bonne part dans l'accomplissement du droit, à la fois dans sa production et dans ce que j'appelle dans son effectuation. Et que le droit parfois en tant qu'il s'agit de règles qui sont élaborées par des organes spécialisés dont nous pouvons nous sentir complètement détachés, eh bien, en dépit de cela, l'être humain, comme membre du groupe social, en fait, va la plupart du temps accompagner le processus, le renforcer. Et lorsque vraiment il se trouve en décalage avec cette règle qui est produite, on va dire, de manière éloignée, va effectivement pouvoir la plupart du temps la contrecarrer, soit par la pratique, il y a des règles qui sont complètement inefficaces, ineffectives, soit en obtenant carrément leur réforme. Mais je dirais que les phénomènes de décalage entre le droit et la société sont finalement pas si fréquents. En tout cas, ce sont des phénomènes qui existent, évidemment, mais qui se trouvent plutôt à la marge de l'ensemble de la société. Il y a plutôt une harmonie, même si cette harmonie ne va pas dans le bon sens, même si cette harmonie conduit à des fragmentations sociales. Mais l'idée, c'est que il y a une sorte d'harmonie dans un accord tacite avec cette forme d'organisation.
La notion du droit, je reviens un peu sur ce thème générique, le droit, ce terme a été introduit à quelle époque ?
Alors, selon les pays, l'ensemble des règles qui sont destinées spécifiquement à organiser les relations sociales par le biais notamment de la contrainte et de la sanction organisée, institutionnellement organisée, n'est pas désignée de la même façon. Pour le cas français, nous avons par exemple deux termes qui n'ont pas la même racine, qui n'ont pas le même radical et qui pourtant se rapportent à la même chose. L'adjectif dérivé du terme « droit » est « juridique ». C'est-à-dire qu'il vient d'un autre terme que celui de droit, qui vient, lui, de directus, la ligne droite. Juridique vient du terme ius, qui, lui, désigne effectivement plutôt, très tôt désigné, le terme de justice. De la même façon, en Angleterre, par exemple, le terme droit est plutôt désigné par celui de law, c'est-à-dire la loi, tandis que les règles sont plutôt désignées par le terme « rule » et les droits dont disposent les individus en particulier par le terme de « right ». C'est-à-dire que le droit, pour le cas français, a la même racine que les droits pour le cas anglais, alors que ça ne désigne pas la même chose. Bon, on pourrait à l'infini décliner cela. Il y a des civilisations qui ne connaissent absolument pas le terme droit. En Chine, c'est au mieux le terme de loi qui peut être employé. Bon. Donc, dans les sociétés occidentales, le terme droit, donc qu'il soit désigné par celui de loi ou par celui de dérivé du terme ligne droite, date en gros de l'Antiquité. Et ensuite, on a décliné. Ce qui est intéressant pour le cas français, c'est qu'il y a une ambiguïté qui s'est toujours maintenue entre le système de droit et la notion de justice. Et d'ailleurs, la notion de justice, c'est le terme qui désigne l'appareil judiciaire censé appliquer le droit. Mais ce terme fait présumer que le droit réaliserait la justice. On voit très bien depuis très longtemps qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, là je dérive un peu, mais pendant des siècles, on a réfléchi sur le rapport précisément entre le droit et la justice, en menant ce qu'on va appeler classiquement une réflexion de philosophie juridique, de philosophie du droit. Mais c'est une réflexion qui, aujourd'hui, est quasi absente de l'espace intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques réflexions en la matière, mais ça n'est pas un sujet. Aujourd'hui, la réflexion sur le rapport entre droit et justice n'est pas un vrai sujet. Ça n'est pas un vrai sujet de réflexion. Et ça n'est visiblement pas non plus un sujet pour ceux qui ont en charge de faire le droit. C'est intéressant de voir comment un espace comme celui du Parlement, qui est par excellence l'espace de production du droit, puisque c'est là que se font les lois, eh bien, n'est pas un espace de réflexion sur la justice. Il y a de ce fait une vraie déconnexion. Le droit, ce sont des règles, mais elles n'ont ni à être morales, ni à réaliser la justice. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les pense toutes seules, mais ça veut peut-être dire que le droit peut être mis au service d'un peu tout type de, d'objectif ou d'intérêt. Mais la justice n'est pas le domaine privilégié du droit aujourd'hui, en tout cas plus.
On peut associer le droit avec cette notion, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et les droits de l'homme, le fait même de préciser l'homme, qu'est-ce que ça induit dans la mentalité de l'époque de le mettre justement en confort pour un mieux vivre?
Alors, dans la première déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, qui quand même, je le rappelle, succède à d'autres déclarations hors du territoire français, mais donc il y a eu la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776 qui contenait déjà quelques développements sur le rapport entre l'homme et la société politique qui ont été aussi approfondis dans la Constitution américaine de 1787, donc juste avant la Déclaration française. Et puis il y avait eu deux déclarations très importantes au XVIIe siècle en Angleterre, en 1628 et en 1688, qui posent clairement une distinction entre les droits dont disposent les individus qui sont entre guillemets gouvernés, même s'il s'agit surtout de poser les droits de la classe bourgeoise, et les gouvernants. Ce qui est intéressant avec la Déclaration des droits de l'homme française, c'est que il n'y a pas de distinction faite au sein de la catégorie homme. C'est-à-dire que c'est l'homme dans sa totalité. Il n'est même pas question qu'il soit citoyen, français ou étranger. Il n'est pas question non plus qu'il soit un homme ou une femme. Il est censé aussi être intemporel, c'est-à-dire que c'est l'homme des générations précédentes, c'est l'homme des générations futures, et c'était évidemment l'homme de 1789. En ce sens, c'est un texte qui est extrêmement bien fait et qui explique aussi sa longévité et le fait qu'on continue de s'y référer aujourd'hui, même si de manière située, je dirais, ce texte n'a aucunement pour ambition de réaliser concrètement, on va dire, un idéal de communauté politique où tout le monde pourrait être considéré de la même façon. Je rappelle que l'article, à mon avis, le plus fondamental de la Déclaration des droits de l'homme, c'est le dernier, c'est-à-dire l'article 17, qui rappelle bien qu'il y existe un droit qui est absolu, c'est le droit de propriété, hein, qui, je pense, est en fait la clé de compréhension de cette déclaration. Mais effectivement, les énoncés peuvent avoir leur importance, et le fait est que la déclaration a officiellement pour ambition de réaliser le bien commun. Et exprime aussi la possibilité que tous les membres du peuple puissent vérifier à tout instant que les gouvernants œuvrent effectivement dans le bien commun. Alors, si je peux, on va dire, voyager jusqu'à aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention justement sur ce terme de « homme ». Alors, non pas du tout pour introduire une question relative au genre, mais plutôt pour introduire une question relative à les entités, ce qu'on va appeler aujourd'hui des entités, qui sont effectivement titulaires des droits. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne parle plus de droits de l'homme, presque plus. On parle plutôt ou de droits fondamentaux ou de libertés fondamentales. Et cette idée, le fait d'avoir enlevé le terme homme, est très 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 importante. Elle a un effet bien plus grand qu'on ne peut l'imaginer, parce qu'elle permet de s'interroger sur le fait que la nature, peut avoir des droits, les animaux peuvent avoir des droits, peut-être à l'avenir, parce qu'on en parle aussi, les robots pourraient avoir des droits, et puis évidemment, ceux qui sont les grands gagnants de ce changement de vocabulaire, c'est-à-dire les entités dites morales, les groupements associatifs ou surtout économiques, c'est-à-dire les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises sont titulaires des droits fondamentaux qui sont contenus dans la déclaration, à l'instar du droit de propriété, par exemple, et peuvent ainsi empêcher parfois que certaines lois soient adoptées au nom précisément des droits figurant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce sont des entreprises qui revendiquent ces droits et non plus des hommes.
Récemment, dans une émission, j'entendais dire quelqu'un que les sciences s'intéressaient à l'homme en tant qu'entité. Assez récemment, je parlerai d'un ou deux siècles, avec l'ethnologie, les explorations pour la découverte de la Terre. Est-ce qu'on peut coïncider justement cette notion du droit avec aussi cette approche d'analyse de l'homme, de l'humanité, je dirais ?
Alors là, je vais vous demander de préciser un peu, parce que sur le développement des sciences et le rapport au droit... Alors, bien sûr, il y a une connexion sur la conception, sur la connexion par rapport à la conception de l'homme. Là, j'ai du mal à saisir le sens de la question.
L'avènement de la Déclaration des droits de l'homme, hein, fin du 19e siècle, est-ce qu'elle coïncide aussi avec le développement international du commerce et puis aussi des approches d'autres cultures? Est-ce qu'il y a des choses comme ça?
Alors, il y a un historien du social qui a développé une analyse de ce qui s'est passé entre les 17e et 18e siècles. Où il a parlé du biopouvoir et de la biopolitique. Donc c'est Michel Foucault. Il a consacré notamment une année de cours au Collège de France en 78-79, il me semble. Et ces cours sont parus, ce cours-là est paru extrêmement récemment. Donc ça veut dire qu'il a été, on va dire, rendu accessible à l'ensemble de la population, donc il y a quelques années. Et je crois qu'on commence un petit peu à comprendre et à s'ouvrir à un nouvel espace de réflexion sur le fait que le développement de la notion de droit de l'homme est éminemment lié à l'avènement, effectivement, d'un pouvoir... on va dire économique, contestant les richesses traditionnelles liées ou organisées autour des entités gouvernantes, qu'elles soient rois, reines, empereurs ou papes même. C'est développer un pouvoir économique en marge, et celui-ci, évidemment, a été très vite... confronté à la force du pouvoir politique. Et pour cela, il a de toute évidence développé une philosophie et des stratégies permettant de faire accéder, on va dire, à une sorte de quasi-naturalisme les droits dont disposeraient les individus à côté des gouvernants. Et évidemment, sans que ce soit absolument conscientisé, très bien organisé, hein, comme un plan marketing, il a fallu évidemment que, pour que ce soit efficace, que ce ne soit pas explicitement et formellement limité à la question économique. Donc on a on a tourné ça pour autour de cette idée que l'homme avait en propre des droits, dont économiques bien sûr, mais un des fondateurs de cette réflexion, qui est John Locke, l'anglais, parle quand même dans le titre, dans le texte original, à propos des droits humains, il les appelle des propriétés. Hein, c'est le terme qu'il emploie. Les properties sont ce sont ces droits dont dispose l'homme dans la nature. Et que ce soit des droits, on va dire, type liberté de manifestation ou liberté de réunion, mais ce sont quand même des propriétés. Donc il y a, et on le voit à mon avis extrêmement bien grâce aux analyses de Michel Foucault, en tout cas, il a ouvert la voie vers plus de réflexion sur ce sujet. On voit très bien qu'il y a une sorte de coïncidence qui n'en est plus une sorte de coévolution entre l'avènement d'un pouvoir économique puis de la société industrielle et la montée en gamme de l'idée des droits de l'homme. Et récemment, il y a un auteur qui est très connu du grand public, qui est Michéa, qui a expliqué à ce qu'il appelle les gens de gauche, les militants de gauche, et notamment, par exemple, tous les avocats qui militent au sein du syndicat des avocats de France, qui est à l'origine un syndicat historique d'extrême gauche, qui est devenu un syndicat plutôt de gauche, mais pas d'extrême gauche, que leur notion de droit de l'homme, qu'ils développent et qu'ils défendent, est en fait une notion qui a été développée dans les années 50 par les économistes américains les plus libéraux, même ultra-libéraux, et que finalement, c'est cette philosophie ultra-libérale qui a gagné, même à travers l'idéologie des droits de l'homme. Et donc, vraiment, ça pourrait faire l'objet de quantité d'émissions, mais simplement pour dire que, dans le cadre de cette réflexion, j'organise au mois de juin prochain, le 13 juin, un colloque à Paris qui porte sur les thèmes du capitalisme, libéralisme et constitutionnalisme, et qui vise à montrer justement qu'il existe des liens entre ces différents termes et que le droit constitutionnel n'est pas simplement un droit destiné à organiser le politique, c'est un droit qui est destiné à organiser au sein de l'espace social le lien entre le politique et l'économique. Et que c'est un aspect qu'on ne doit absolument pas oublier parce qu'il est dès l'origine. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est dès l'origine, dès le constitutionnalisme d'origine.
Par rapport à la société contemporaine, comment peut-on expliquer une certaine frustration de la population par rapport à une accessibilité du droit ?
Il y a dans la difficulté ressentie d'accéder au droit, parce que je pense que c'est surtout une difficulté ressentie, souvent. Il y a une sorte de... Alors, à la fois, je pense, d'autocensure de chacun, et aussi, il y a un élément qui est quand même important, c'est le langage. Mais je vais donner un tout petit exemple. J'avais invité, il y a quelques années, lors de mon séminaire sur les usages du droit, une spécialiste de civilisation britannique et irlandaise. Et elle était venue en reconnaissant très simplement que si, dans le cadre de son travail, elle recourait à des études d'histoire, d'économie, de sociologie, de sciences politiques, elle ne recourait jamais au droit. Et elle s'est demandé pourquoi. Et elle s'est rendue compte que l'une des raisons principales était une sorte d'idée préconçue par rapport au droit, liée notamment au langage. C'est-à-dire, en fait, on ne comprend pas quand le droit parle, c'est inaccessible. C'est une universitaire qui sait lire des choses considérées comme difficiles, mais du coup, pour venir à ce séminaire, elle s'est plongée dans une ou deux décisions qui concernait son domaine sur le rapport entre l'Irlande et l'Angleterre la Cour suprême. Et elle s'est rendue compte que au bout de deux ou trois lectures, en fait, elle comprenait très bien ce qui se disait, mais qu'elle n'en avait pas idée avant. Et Et il est vrai que c'est un, encore, on va dire, quelque chose que je ne m'explique pas complètement. Mais il est vrai que la plupart des gens sont heurtés par le langage du droit, mais plus souvent par l'idée que le langage du droit est opaque, obscur. Alors c'est vrai qu'il l'est souvent, hein, c'est vrai que il est parfois difficile de lire certaines décisions, mais si je peux me permettre, il y a, alors c'est un article ancien, on n'écrit plus tellement comme ça aujourd'hui, mais lorsqu'on lit par exemple un des articles fondamentaux du Code civil, qui porte sur la responsabilité de chacun comme, on va dire, membre du groupe social, c'est un article dont la lecture est extrêmement, enfin dont l'écriture est limpide. Cet article, qui est aujourd'hui l'article 1244, dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Alors parfois, il faut le lire une ou deux fois, mais il n'y a pas de grande difficulté à comprendre cette disposition. Elle est extrêmement claire, extrêmement bien écrite aussi, ce qui n'est pas le cas nécessairement du droit en général. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a quand même cet effet de barrière qui fait que la plupart des gens disent « mais moi, je n'y comprends rien ». Je n'y comprends rien, du coup, on va se sentir lésé parce que on ne comprend pas assez, on va devoir recourir à des experts que l'on va devoir payer. Et ça, c'est encore plus frustrant, parce que du coup, ça montre aussi une barrière supplémentaire. C'est-à-dire que non seulement je ne comprends pas de moi-même, mais en plus, je dois payer quelqu'un, et éventuellement, ça me met dans une position encore plus inférieure à celui qui soit peut savoir de lui-même, soit a largement les moyens de recourir à des experts. Bon, de toute évidence, il y a un travail à faire de ce point de vue-là. De mon côté, le travail passe par justement le fait que c'est une manière déjà de se situer par rapport au droit dans l'espace politique et dans sa vie quotidienne qui permet de mieux l'aborder. Voilà, ça je dirais que pour l'instant, moi, c'est mon travail. Ce n'est pas moi qui fais les lois, ce n'est pas moi qui les écris. Je pense pour le coup que je les écrirais autrement. Mais moi, déjà, j'essaye de faire toucher du doigt que le droit, il n'est pas si éloigné de nous et que même, la plupart du temps, nous participons à sa production sans même nous en rendre compte.
Je viens un peu là-dessus. Récemment, dans un article du Canard Enchaîné, il était dit que le gouvernement actuel utilisait des entreprises ou des cabinets privés pour pondre de nouvelles lois. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Est-ce que ça n'est pas justement une désappropriation publique de la rédaction du droit même ?
Alors là, je crois qu'il n'y a pas de doute possible. En effet, la Commission européenne elle-même aussi... Non, c'est le Parlement européen récemment qui a eu aussi recours à un cabinet en ce sens. Il est clair qu'au Parlement, on ne discute pas tellement, comme je le disais tout à l'heure à propos de la question de la justice, on ne discute pas tellement de ce que c'est que faire une règle de droit, de comment on la fait, de comment on la modifie, de quel type d'impact va avoir une disposition nouvelle dans le cadre d'un système qui, lui, est là depuis fort longtemps. La compétence des parlementaires en la matière est globalement limitée, mais elle n'est pas non plus encouragée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable travail sur ce point, à mon avis, hein, c'est parfaitement clair. Il n'est qu'à regarder un texte de loi. Alors, je prends ce texte à dessein parce qu'il est très polémique, mais prenons l'exemple récent d'une loi qui n'est pas encore définitivement adoptée, mais qui est la loi dite anti-casseurs. C'est une loi qui, à peu de choses près, dans son énoncé, ne dit pas grand-chose de ce qu'elle fait. Pourquoi ? Parce que ce qui se dit dans une loi, étrangement, ne s'écrit pas. Si il s'agit, par exemple, de dire que la dissimulation du visage dans l'espace public, aux abords et dans le cadre d'une manifestation, n'est plus, contrairement à ce que prévoyait la fameuse loi Sarkozy de 2010, passible de 150 euros d'amende, parce qu'il constitue une contravention, mais désormais de 15 000 euros d'amende et même est passible d'un an de prison ferme parce que c'est devenu un délit, eh bien, le texte de la loi actuellement en débat ne le dit pas explicitement. C'est-à-dire qu'il ne reprend pas l'ensemble des termes, il se contente juste de dire quelle disposition dans tel article du code pénal, donc c'est un numéro, eh bien, va être remplacé par une autre disposition. Et qu'est-ce qui est remplacé? En fait, c'est 150 euros par 15 000, c'est un an de prison ferme qui est ajouté, mais on ne reprend pas le texte entier. Ça veut dire que quelqu'un qui lit ça, eh bien, ne peut pas, en le lisant, avoir conscience véritablement du changement qui s'opère. Parce que le changement, il n'est fait que par référence à quelque chose qui n'est pas nommé, qui est numéroté. Et les parlementaires ne sont pas des juristes spécialisés pour la plupart. Et c'est avec ça qu'ils travaillent. Donc, c'est-à-dire qu'eux non plus, finalement, n'ont pas un accès direct à ce qu'ils font, même si ils vont se renseigner, même si pour les plus sérieux d'entre eux, ils vont essayer de comprendre mieux ce que ça veut dire, parce qu'ils ont des assistants qui souvent sont des juristes et qui vont essayer d'expliquer. Mais c'est un travail qui n'est pas toujours fait, qui n'est pas fait en profondeur surtout. Donc la rédaction des lois est un véritable problème qui du coup va facilement inviter les parlementaires ou les membres du gouvernement qui sont dans une culture effectivement de la spécialisation à outrance à se dire « Ah, bah parce que puisque nous on n'y connaît rien, eh bien, on va faire appel à des gens dont on pense qu'ils s'y connaissent. » Bon, alors, les avocats ou les professeurs de droit sont des experts depuis très longtemps auxquels on peut recourir, mais auxquels on va recourir plutôt de manière gracieuse, en général, quand il s'agit de l'espace public. Là, c'est vrai, il y a un recours qui n'est pas gracieux, donc que l'on paye, à des entités privées, et qui ne sont même pas, d'ailleurs, toujours d'éminents spécialistes, mais dont on a une certitude, c'est qu'ils travaillent pour des intérêts tout à fait bien identifiés. Donc, de ce fait, oui, il y a peut-être une privation de la production du droit qui est censée se faire dans un espace public légitime, qui est le Parlement. Alors, il faudrait aussi discuter de la légitimité du Parlement, mais en tout cas, dans notre organisation actuelle, c'est pour l'instant le seul lieu de légitimité de production du droit. Et c'est un lieu qui se vide de la production du droit. Donc c'est sans nul doute extrêmement problématique, oui, et discutable.
Laureline, l'heure passant, nous allons devoir nous quitter. Et donc, je rappelle aux auditeurs votre intervention qui aura lieu samedi 2 mars à 10h30 à l'espace social du DIWA, qui concerne donc l'homme et son droit dans la société contemporaine.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci Laureline.
À samedi.
Bonne soirée.
Sun check. You are my trouble, my sister, my secretion, my good idea, my song. Check. Sun check. And at the sand, this neck wet for you. Did it sound? He said, shh, shh, shh. Shh, 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 shh. He said, welcome in my destroyed church. He said, song, check. Song, check. Like a 6-0 song. Check. Song, check. Song, check. Song, check. End of the night.
tonight.